je vous invite donc ce matin à méditer dans l'Épître aux Romains, comme vous le voyez là, au chapitre 13, les versets 8 à 10. Cyril nous a déjà invité à plonger au cœur de l'Épître aux Romains avec des versets qui nous donnaient vraiment le cœur du message de Paul dans cette Épître. Là, nous avons peut-être le sentiment de sortir un peu du thème principal de l'Épître, mais vous verrez que ce n'est pas si sûr. Alors, n'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Amen.
Amen.
Tu peux mettre. Voilà. Commençons par parler factures. Il est agréable de payer ses factures. Vous ne trouvez pas ? C'est vraiment un plaisir qui nous est donné régulièrement. C'est pratique en fait. Nous les recevons par la poste ou par Internet même maintenant. Nous faisons un chèque ou un virement et c'est réglé. Et on fait tout aujourd'hui pour que ce soit le plus facile possible. Hop, un clic et la facture est payée. On ne s'en rend même pas compte. Du moins, si le compte bancaire est assez fourni. Rien de plus simple. Moi, je préfère les payer assez vite. Comme ça, après, je n'y pense plus. Ma mère me disait souvent... Qui paye ses dettes s'enrichit. Alors je paye mes dettes, avec empressement. Je ne suis certainement pas plus riche après, mais au moins j'ai l'esprit tranquille. Il existe pourtant, nous dit Paul ce matin, une dette à l'égard de mon prochain que je n'aurai jamais fini de payer. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que plus je l'acquitte, plus je suis riche devant Dieu. Et là ça marche. Ce que je dois à mon prochain, encore et toujours, c'est l'amour. Hein, comme le disait saint Augustin, je vous ai déjà cité cette phrase, je pense que vous l'avez retenue, « La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. » La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Alors Paul nous dit aujourd'hui que nous accomplirons la loi de Dieu tant que celle de l'amour restera inaccomplie. N'auront jamais fini de l'accomplir. Elle est toujours à recommencer, toujours à vivre en faveur de notre prochain. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Alors méditons un peu ce matin cette loi étrange. Il y avait déjà une loi ancienne. Moïse avait donné la loi aux enfants d'Israël. Une loi qui nous paraît sévère. Quand nous nous plongeons dans les premiers livres de la Bible, je ne sais pas si la plupart d'entre nous ont probablement eu la curiosité déjà de le faire, de se plonger dans l'Exode, le Lévitique, les Nombres ou le Deutéronome. Aujourd'hui, Cyril nous a invités à méditer un magnifique passage du livre de l'Exode. Mais il y en a d'autres, et ce sont des livres que nous avons parfois du mal, en tout cas certains passages de ces livres, nous avons du mal à les méditer sereinement. Leurs réglementations nous apparaissent pointilleuses, rébarbatives, rigides, même cruelles parfois. Les mensurations, les mesures de la tente de la rencontre occupent plusieurs chapitres de l'Exode. Les règles sur la pureté ou sur les sacrifices sont interminables. Les exclusions et les condamnations à mort ne sont pas rares. Ces lois, frères et sœurs, sont le reflet de la vie d'un peuple de l'Antiquité. D'un peuple, comme nous dit la Bible, à la nuque raide. Un peuple à la nuque raide. Et à travers ces lois s'exprime un profond désir d'être en règle avec Dieu. S'exprime une foi en l'Éternel, dont le respect de la sainteté doit s'exprimer dans les plus petits détails de l'existence et du culte. Ce sont les lois d'un peuple en chemin, un peuple que Dieu accompagne dans ses tâtonnements et même dans ses ténèbres. Elle prépare la vocation extraordinaire de ce peuple, vocation que l'on trouve dans le livre du Lévitique. « Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. » Et cette vocation trouvera son accomplissement dans la personne d'un enfant d'Israël. Un enfant d'Israël attendu par tout son peuple, mais rejeté par ceux qui absolutisaient les prescriptions de la loi, justement. Jésus, le descendant de David, le Messie, le Fils de Dieu. Mais par sa loi, ce peuple brillait déjà dans l'Antiquité comme une lumière au milieu des autres peuples. Le prophète Ésaïe le lui disait, « Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Et la loi de Dieu trouvait sa plus haute expression dans les 10 paroles que l'Éternel avait gravées sur les tables de pierre de Moïse, sur le Sinaï, ce que nous appelons les 10 commandements. « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'es libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. » Les historiens, les archéologues, les spécialistes des sociétés de l'Antiquité s'accordent à reconnaître dans ces paroles, dans ces 10 commandements, un progrès énorme pour l'humanité. Les 10 commandements apportent effectivement une lumière dans les ténèbres de violence qui opprimaient tous les peuples environnants autour du peuple d'Israël. Les 10 commandements sont même à l'origine des droits de l'homme moderne. Et certains estiment encore aujourd'hui qu'ils pourraient servir de fondement à une morale minimum universelle. Dans ces 10 commandements, la Bible nous offre un critère de ce qui est bien. Un critère du bien. Jean Calvin, vous connaissez ce joyeux Jean Calvin, l'un des formateurs de Genève, toujours souriant, avec sa grande barbe, hein, et ses traits tirés. Jean Calvin, qui est mort en 1564, disait que le décalogue, les 10 commandements, les 10 paroles, est la vraie et éternelle règle de justice ordonnée à tous les hommes, en quelque pays qu'ils soient, ou en quelque temps qu'ils vivent, s'ils veulent régler leur vie à la volonté de Dieu. La vraie et éternelle règle de justice pour tous les hommes, s'ils veulent régler leur vie à la volonté de Dieu. Mais en fait, les 10 commandements avaient un objectif plus fondamental que de régler les sociétés humaines. Ils étaient avant tout l'expression de la volonté de Dieu pour l'homme, dans sa relation avec lui et dans sa relation avec son prochain. Ils étaient paroles de Dieu à l'être humain pour le conduire dans la propre sainteté de Dieu. Ils n'étaient en fait pas une réglementation d'abord, mais surtout un chemin. Un chemin. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. C'est au futur. Voilà le chemin, la route que le Seigneur montrait à son peuple. Et puis dans la Bible, c'est très curieux, au milieu d'une accumulation de règles sur les sacrifices, les transactions, la sexualité, la nourriture, apparaît dans le livre du Lévitique qui est peut-être l'un des livres bibliques qu'on lit le moins, enfin salé d'ailleurs, je crois que ça a été statistique, l'ont montré, le Lévitique, c'est le livre biblique qu'on lit le moins, le pauvre. Et là apparaît le sens de la loi, le chemin que l'Éternel nous appelle à suivre dans nos relations les uns avec les autres. Lévitique, chapitre 19, versets 17 à 18, « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un chemin de liberté, car la source de l'amour réside dans le cœur du croyant. Cette source de l'amour, eh bien, c'est Jésus qui a manifesté sa vitalité. Il est venu la faire jaillir, sourdre en nous. Jésus disait en Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Jésus a vécu sur cette terre la plénitude du pardon et de l'amour de Dieu. Rien en lui ne rappelle les violences de l'Ancien Testament. Ces violences devaient être définitivement dépassées. Derrière, Jésus était saint, lui, comme son Père, vraiment. Il a guéri, tiens, reprenons ce thème, il a purifié, il a servi, il a pardonné, il a aimé ses ennemis, il a donné sa vie et il a vaincu la mort pour notre salut. Son amour pour son Père le poussait à aimer ses frères en humanité. Et son amour des hommes était justement l'expression de l'amour du Père pour ses enfants. Et voilà où devait mener la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Christ a accompli cela dans sa liberté de Fils de Dieu. Et Christ attend de nous son accomplissement, non pas comme un fardeau qui serait posé sur nos consciences, mais au contraire comme une libération du péché qui nous détruit. L'amour sera désormais l'expression de la vie du Seigneur, de la vie du Seigneur en nous. L'apôtre Paul, qui avait été un pharisien scrupuleux dans l'observance des commandements de la loi de Moïse, l'apôtre Paul s'émerveillait de ce retournement complet dans sa vie. Par la foi en Jésus, par la nouvelle naissance dans la communion à son Seigneur, il constatait que l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et ainsi s'accomplissaient les paroles du prophète Jérémie. « Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. » La vie selon la volonté de Dieu trouve effectivement sa source dans la foi en son Fils. « Nous sommes justifiés, écrit Paul, c'est-à-dire rendus justes par la foi. » Au point que Paul peut s'écrier désormais « Christ est ma loi ». Voilà notre loi. Christ est ma loi. Le juste n'est pas celui qui s'enorgueillit par ses œuvres de piété ou de charité, mais le juste, c'est celui qui est tendu vers son Sauveur pour recevoir de lui, et uniquement de lui, la grâce de vivre de son pardon, de sa lumière, de sa bonté. La justice découle de cet élan d'une foi qui attend tout de Jésus. Je deviendrai Dieu pour eux, et eux, ils deviendront un peuple pour moi, disait le Seigneur. Tel était bien l'objectif de la loi. Ils deviendront un peuple pour moi. Non pas l'objectif d'écraser, mais au contraire de libérer, non pas de rester asservi au mal, mais de vivre désormais pour Dieu seul, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et cela, une loi codifiée ne pouvait pas le réaliser. Cette loi pouvait seulement en indiquer la direction d'un chemin qui allait mener à Jésus, et un chemin que Jésus lui-même a suivi jusqu'à nous. Jésus qui s'est donné par amour et pour nous rendre capables d'aimer comme lui. Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, moi aussi je vous ai aimé. Désormais, demeurez dans mon amour. Bon, bah, c'est mieux comme ça. Ouf. Nous aurions envie de dire, ouf, nous ne sommes plus tenus d'observer les 613 prescriptions que les rabbins comptaient dans la loi de Moïse. Ah, ça va, on peut lire le livre du Lévitique tranquille. Ça ne nous concerne pas. Enfin, sauf le verset que je t'ai cité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouf, nous ne sommes plus tenus d'observer ces 613 prescriptions. Et pourtant, ah, il y a un hic. Jésus dit qu'il n'est pas venu l'abroger, mais l'accomplir. La loi était quand même la loi de Dieu. La loi était quand même sainte. Et Jésus, précisément, l'a accomplie. Et en l'accomplissant, il lui a redonné son sens. Il est revenu à sa racine. Et en fait, revenir à sa racine, ça se dit en français être radical. Donc il a rendu la loi encore plus radicale, encore plus exigeante. Désormais, la loi de Dieu engage toute l'existence du croyant, comme Christ, qui s'est offert tout entier au Père et aux hommes. Nous avons été affranchis de la loi, dit Paul, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre. Eh bien, servir sous le régime nouveau de l'esprit, frères et sœurs, ce n'est pas forcément plus facile. Parce que toujours, toujours, nous cherchons à résister à Dieu. Nous cherchons à lui résister à cet esprit. Nous ne voulons pas qu'il vive entièrement à nous. Il y a une personne qui disait récemment à Hélène, comme ça, un peu à l'oreille, je prie pour que le Seigneur m'éclaire, mais j'ai un peu peur de ce qu'il va me dire. Hein? Oui, c'est pas forcément facile. Nous cherchons à résister à Dieu. Ce que nous offre Jésus, ce n'est rien moins que sa vie à lui pour libérer notre existence justement de ses notre existence des résistances qu'il a détruites. Paul dit donc que les commandements se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, j'allais me dire, c'est un commandement ancien, puisqu'il est tiré du très vieux livre du Lévitique. Mais Jésus nous demande désormais de le reconsidérer, et de le reconsidérer en lui, en pensant à lui, en priant avec lui, en vivant avec lui. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » C'est pas nouveau. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est nouveau. Quand il dit cela, Jésus vient de laver les pieds de ses amis. N'est-ce pas, Philippe? Et il est à la veille de sa mort. Jésus est pour les autres, exclusivement tourné vers les autres. Il nous invite à l'accompagner dans cette révolution. Ça, c'est une conversion, une révolution. Être maintenant tourné vers les autres. Le commandement du Lévitique est écrit au singulier. Tu aimeras ton prochain. Et il invitait à se prendre soi-même comme norme de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le commandement nouveau est au pluriel. Aimez-vous les uns les autres. Ils font donc une communauté de frères et de sœurs, unis dans l'amour d'un même Père. Et la norme de l'amour, ce n'est plus soi-même, mais c'est Jésus, avec ce qu'il a accompli pour nous. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Tout un programme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. L'amour devient donc encore plus exigeant. Les disciples de Jésus deviendront dans le monde justement des signes de la mesure sans mesure de l'amour. Alors oui, ils ne tueront plus, encore que. Mais ils ne se permettront même plus d'injurier, nous dit Jésus. Ils ne commettront plus d'adultère. Mais, nous dit Jésus, il faudra aller encore plus loin. La pureté habitera même leur cœur et leur regard. Ils ne voleront plus. Ah, mais ils donneront même à ceux qui leur prennent. Ils ne convoiteront plus. Mais ils renonceront même à ce qu'ils possèdent pour l'amour du Christ. Ils pardonneront, mais pas seulement 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 70 fois, 7 fois. Ils ne haïront plus leur ennemi, mais ils l'aimeront et ne résisteront plus aux méchants. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, dit Jésus. C'est la loi et les prophètes. Waouh! Ça ira, vous pourrez rentrer l'esprit tranquille chez vous. L'amour est le plein accomplissement de la loi, nous dit Paul. Comme un écho aux paroles de Jésus à ses disciples, quand Jésus dit « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. » C'est un peu comme si Paul voulait nous dire « Ce que vous avez à faire, Jésus l'a fait avant vous. Et Jésus l'a fait pour vous. Jésus l'a fait avant vous. Il l'a fait pour vous. Et j'ai envie d'ajouter, il va le faire en vous. » Dans son épître aux Romains qui développe le thème de la grâce, comme Cyril l'a rappelé tout à l'heure, Paul invite donc à s'en remettre entièrement au Seigneur. La grâce, elle nous est donnée. Donc nous pouvons nous en remettre entièrement en lui. C'est par la foi, cette remise de votre vie entre les mains de Dieu, c'est par la foi que vous suivrez le Christ. C'est par la foi qu'il demeurera en vous. C'est par la foi que vous serez libérés du péché. C'est par la foi que l'amour de Dieu, que la loi divine habitera enfin votre cœur. Et c'est par la foi que vous serez sauvés. Paul rappelle donc les exigences des 10 commandements en les mettant en lien avec les paroles de Jésus. En fait, un programme de sainteté s'ouvre devant nous. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Loin de nous effrayer, cela devrait nous réjouir. Parce que Paul veut nous faire comprendre ainsi qu'il est possible et que c'est la plus grande libération que nous connaîtrons jamais. Il est possible, oui, aujourd'hui, de vivre en Christ. En Christ qui est source de paix pour notre vie et pour le monde. Amen. Amen. Nous prions. Viens Seigneur Jésus, par ton esprit, viens habiter notre vie, viens vivre en nous. Nous voulons ce matin être tout particulièrement et ensemble, en communauté, tendus vers toi, tournés vers toi, pour que toute notre vie t'appartienne, Seigneur. Oh, nous savons combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes loin d'être saints comme tu es saint, combien nous sommes loin d'accomplir ce commandement de l'amour que tu nous demandes de vivre jusqu'au bout, mais nous le recevons comme un cadeau de ta part, un cadeau pour nous libérer de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous détruit, de tout ce qui salit notre existence. C'est ce que tu veux faire en nous. Seigneur, donne-nous de t'ouvrir notre vie pour être capable d'aimer avec toi et d'aimer en toi. Amen.
Amen.